Europe 1, en balade avec Cali. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Cali que nous partons en balade aujourd'hui. Chanteur, acteur, écrivain, l'éternel adolescent est aujourd'hui quinquagénaire. Mais dans son nouveau livre, il revit ses 15 ans, ses premières amours, son premier groupe de rock, son premier concert. Cali nous a donné rendez-vous place blanche devant le Moulin Rouge.
C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur,
c'est quand le bonheur. Bonjour Cali.
Bonjour.
Nous voilà devant le Moulin Rouge, 82 boulevard de Clichy, juste devant l'entrée de Féerie. Maintenant, il y a des pots de fleurs rouges très grands qui nous protègent de la rue. Est-ce qu'ils existaient déjà quand vous étiez serveur ici ?
Je ne sais plus s'il y avait les pots de rouges. Mais là, je regarde avec émotion le plus célèbre French cancan du monde. Ouais, je suis arrivé ici, j'avais 20 ans. J'arrivais de Vernay-les-Bains. Et je suis venu travailler ici, quoi.
C'était, mais par hasard, il y avait une pancarte, on embauche
Non, mais disons que j'avais les cheveux mi-dos, quoi. Et ma sœur m'a dit, tu cherches du boulot à Paris. Pour déconner, elle m'a dit, va là-bas. Mais moi, je croyais, je l'ai pris au premier degré. Et je suis allé demander, j'ai inventé, j'ai dit que j'étais serveur de métier. Et le gars m'a dit, mais on n'a pas besoin de vous. Et je suis rentré chez ma sœur, elle a rigolé, évidemment. Et le soir même, on a reçu un coup de fil. On vous attend demain avec une veste blanche et les cheveux courts. Mon beau-frère m'a coupé les cheveux comme il a pu, c'est terrible. Et je suis arrivé là-bas et puis la personne qui m'avait accueilli n'était pas là. Donc il avait 2 jours de congé. Donc j'avais 2 jours libres, mais je ne savais rien faire, quoi. J'ai dit à un môme là-bas qui bossait, j'ai dit explique-moi tout. Et la première table, je me souviens, table numéro 60 devant les stripteaseuses et tous les seins à l'air, c'est dingo.
On n'appelle pas ça des stripteaseuses.
Non, devant les danseuses magnifiques. Mais c'était dingue. Et le troisième jour, je suis arrivé et puis... tout le monde était triste et la personne qui m'avait accueilli s'était tiré une balle dans la bouche, quoi.
Donc mon Dieu.
Ouais, vraiment. Ouais. Donc plus personne me surveillait, donc je suis resté là. Et c'est terrible parce que c'était fou. Je rentrais tous les soirs à 3h du matin chez ma sœur. Elle me lavait la veste, je m'en mettais partout. Et j'ai passé 2 mois comme ça. Voilà.
Seulement 2 mois alors.
Ouais, 2 mois, ouais. C'est moi qui suis parti. Et je m'appelais. Alors mon nom c'est Bruno Caliccioli. Et ils appelaient les gens par monsieur, leur prénom, quoi, monsieur Bruno. Mais il y avait un monsieur Bruno. Et mon deuxième prénom, c'est Michel. Donc, j'étais Monsieur Michel du Moulin Rouge. Je ne répondais jamais, évidemment, quoi. Mais j'ai ce souvenir. Je ne suis jamais retourné à l'intérieur. Mais j'ai vraiment ce souvenir.
Vous n'avez pas vu l'aquarium géant ?
Non, mais je me souviens, c'était dingo. On servait 1200 couverts. C'était fou, quoi. Je me souviens avoir... Je devais ouvrir une bouteille de champagne pour des Japonais. Je n'ai jamais réussi. Je leur ai laissé la bouteille. Elle est restée là à la fin. Voilà, c'est des petits souvenirs qui me restent.
On va aller se promener... vers le cimetière Montmartre, donc on prend le boulevard de Clichy. Ce quartier vous plaisait ? Pour arriver à Paris, c'est pas mal.
Ouais. Non, ça m'a toujours plu. Quand je vais à Paris, je passe par ici parce qu'il y a les Noctambules pas loin. C'est un quartier qui... ouais, c'est autre chose. Moi, je viens d'un tout petit village. Alors ici, c'est une autre vie, évidemment. Et j'ai ce souvenir, encore une fois, il se passait plein de choses la nuit en rentrant chez ma sœur. Et une fois, il n'y avait personne dans la rue. Et quelqu'un qui m'a plaqué contre le mur et il y avait le tournage d'un film. Et j'étais tellement heureux de voir le tournage d'un film, quoi, à 3h du
il
matin.
Il vous a plaqué pour pas que vous...
Pour pas que je sois à l'image.
Dans le tournage.
Ouais.
C'est ça. Là, en face de nous, il y a la chapelle Sainte-Rita, la chapelle des cas désespérés.
D'accord.
Vous y alliez de temps en temps ?
Non.
On passe devant le théâtre des deux ânes, qui se qualifie lui-même de théâtre désobéissant.
C'est beau,
comment
ça.
Vous aviez trouvé Paris à l'époque, vous, jeune Catalan, débarqué d'un train, j'imagine.
Ouais, je débarquais d'un train, mais je trouvais ça infini, gigantesque. Et je trouve toujours ça infini, gigantesque. Et
pourtant,
je sais jamais où je suis à Paris.
Vous vivez à Perpignan, c'est une grande ville.
Ouais, non, c'est une grande ville, mais non, c'est pas une grande ville, quoi. Mais je ne sais pas trop. Je donne rendez-vous à des amis à Paris. Je vais à l'endroit donné. Mais je ne sais pas où c'est. Je dis chaque fois, mais quel est le monument célèbre à côté pour savoir où je suis ?
Là, vous voulez que je vous dise les monuments célèbres ?
Allez, d'accord.
Boulevard de Clichy, c'est quand même un endroit, c'était le boulevard des peintres. Hein. Ici, ont vécu Edgar Degas, Kubka, juste à côté du Moulin Rouge, Jérôme, Paul Signac, Georges Seurat, Picasso, Van Gogh, il a posé son chevalet. Picasso, vous aviez une lithographie de... de Guernica dans le salon chez vous, enfant.
Ouais, au-dessus du canapé, ça, c'est toute ma vie, quoi. Je n'ai vu que ça, toute ma
Guernica,
vie. Guernica.
Ça vous a marqué, oui.
Bah, ça m'a marqué, mais surtout, je suis allé il y a une poignée d'années à Madrid, au musée Reina Sofia, et je savais que le Guernica était à l'intérieur. Et quand on arrive et qu'on tombe sur le vrai, comme ça, waouh!
La guerre d'Espagne, ça vous a marqué. Vous avez raconté votre grand-père Caliccioli, il a rencontré votre grand-mère, il était dans les brigades internationales, elle était infirmière.
Oui, c'est ça, il était un Italien du Sud qui était né à San Stefano en Calabre et qui est parti se battre contre Franco et blessé sur le front de Brunette. Et ça m'a beaucoup touché le film Mourir à Madrid.
Oui, le film de Frédéric Rossif, documentaire.
On voit Hemingway, mais on voit surtout ces images de Brunette. Et je me dis, mon grand-père était là, quoi. C'est fou. Et c'est ma grand-mère qui était fiancée déjà et puis qui est tombée folle amoureuse de ce soldat blessé aux yeux
verts. C'est pour ça que vous, quand vous dites « no passaran », je vous ai souvent entendu dire « no passaran », ils ne passeront pas. Au fond, vous parlez à votre grand-père.
Ouais, je parle à moi. Mais je trouve ça tellement, tellement fou. C'est une poignée d'années. C'était hier, quoi. Alors que mon père qui n'est plus là, nous a toujours parlé de son père. Et moi, j'étais trop jeune et ça me passait à côté, quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte du héros que c'était parce que je vais jouer à droite à gauche et des gens me donnent des traces de mon grand-père, ouais, des passages. Ouais. J'ai joué récemment en Lozère et puis à Mende. Et puis le maire a gentiment su mon histoire et a fait des recherches. Il a trouvé une lettre de mon grand-père qui était au camp de Gurs, séparé de sa femme.
Et camp de Gurs, c'était un camp de concentration. Hein,
camp de concentration, oui, c'est ça. Et puis après être passé par Saint-Cyprien, Argelès, ma grand-mère et mon père se sont retrouvés donc à Mende avec des Espagnols. Et puis, mon grand-père, qui ne pouvait pas les voir, a écrit une lettre de supplication. S'il vous plaît, donnez de la soupe et du lait au petit bébé qui est là. C'était mon père, quoi. Et il m'a offert cette lettre-là. C'est assez fou.
Europe 1.
On est devant le cimetière de Montmartre. On se retrouve à l'intérieur avec Kelly.
C'est dans le 18e arrondissement qu'on rejoint Frédéric Taddeï et Kali pour la suite de leur balade dans un cimetière où sont enterrés grand nombre de célébrités.
Nous entrons dans le cimetière Montmartre avec Kali, un cimetière où sont inhumés Dalida, Michel Berger, France Gall, Berlioz, Henri-Georges Clouzot, Georges Feydeau, Fragonard, Galabru, Sacha Guitry, Labiche, Jeanne Moreau, Nijinsky, Offenbach, Picabia, Stendhal, François Truffaut. Mais la tombe qui vous intéresse, vous, c'est celle de Daniel Darc.
Daniel Darc, oui. Mon Daniel.
Daniel Darc, chanteur de Taxi Girl, qui était revenu ensuite en solo. Un garçon qui nous a quittés en 2013, il y a 6 ans. Vous le connaissiez bien ?
Oui, on s'aimait beaucoup et je l'aimais beaucoup. On a partagé énormément de choses. Il était très protecteur, il me protégeait beaucoup. J'ai souvenir de, c'était mon deuxième album où on a partagé une chanson, donc on fait un duo tous les deux, et j'attendais ma petite, ma deuxième, ma Coco, qui devait arriver. Et
j'étais en deuxième
studio.
Fille.
Ouais, j'étais en studio à Paris, et on chante tous les deux, et puis je reçois un coup de téléphone pendant le studio, et c'est ma grande sœur qui me dit « si tu veux voir ta fille naître, faut y aller maintenant, quoi. » Et alors, je l'ai dit à Daniel, il m'a pris dans les bras, il m'a dit « Allez, va vers la vie, vas-y, file. » Et on a placé une phrase et je suis parti à fond comme ça. Il avait le sourire. J'ai toujours ce sourire quand je vois ma fille, je pense à Daniel. Et j'ai toujours ce sourire, quoi. Ouais.
On est passé sous le pont métallique qui enjambe le cimetière Montmartre, le pont qui mène à la rue Caulaincourt. C'est Marcel Aimé qui disait « La rue Caulaincourt, c'est la plus belle rue de Paris parce qu'elle part d'un cimetière et elle serpente vers le ciel comme un chemin de paradis.
Wow. »
Ah ben là, je vois une plaque. Jean-Honoré Fragonard fut inhumé dans ce cimetière. Il n'y est plus. À côté, il y a le caveau des sociétaires de la Comédie française. Vous voulez toujours être enterré en Irlande, vous ?
Ouais. On appartient au pays où on a décidé de mourir. Ouais. L'Irlande. Enterré, je ne sais pas, mais mourir là-bas, ça doit être quelque chose. Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'on n'y paye pas d'impôts sur les droits d'auteur.
En tout cas, non, mais je le vois bien, quoi. Clifden, ouest de l'Irlande, le village le plus à l'ouest d'Europe. Et je vois bien ça, avec Steve Wickham qui joue du violon au-dessus de ma tombe.
Regardez là, la créatrice du French Cancan,
ah,
la Goulue.
Ouais, la Goulue.
Née en 1866, morte en 1929. Ici repose Louise Weber, dite la Goulue. On est dans l'avenue de la Croix. Vous aimez les cimetières, Kelly ?
Oui, j'adore. Ça me touche particulièrement. Et c'est troublant. Je suis allé il n'y a pas si longtemps à Los Angeles sur la tombe de Marilyn. Et c'est marrant de voir comment s'appelle le gars de Playboy, là.
Hugh Hefner.
Ouais, qui a fait déloger quelqu'un qui a payé très cher pour pouvoir éternellement
être à côté de Marilyn.
De Marilyn, ouais.
Alors là, on entend du bruit, c'est parce que, ben justement,
là
voilà la tombe de Daniel. Il n'y a pas de chance, il y a un petit moteur juste à côté. Daniel Rozum, dit Daniel Dark, 1959-2013.
Je n'étais jamais venu sur la tombe. J'ai dit au revoir à Daniel à l'église. Et c'était fou, quoi. Il est parti dans ce cercueil noir sur la musique de Johnny Cash, Hurt. Il est parti comme ça.
Il y a cette camionnette qui fait beaucoup de bruit.
Et la camionnette est garée devant la tombe de Daniel. Punk, jusqu'au bout, Daniel.
Je vous propose d'écouter une de ses chansons, La taille de mon âme, ça vous va ?
Ouais.
Hein ? Une valse mélancolique. Qui débute par un extrait des Enfants du Paradis avec Arletty et Pierre Brasseur. On l'écoute.
Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.
Oh, pariez grand, vous serez.
Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Écoute l'histoire, un peu triste. Si tu savais mon cœur, rien. Si tu savais mes yeux, rien. Si tu savais mes mains, rien. Si tu savais mes reins, rien. Si tu savais mes jambes, rien. Si tu savais mes bras, rien. Si tu savais mon ventre, rien. Si tu savais mes fesses, rien. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme. Si seulement tu savais la taille de mon âme. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme.
Aujourd'hui, en jetant cette fleur, peut-être m'avez-vous réveillé pour toujours. Quel drôle de garçon vous faites.
Si tu savais mon cœur.
Comme vous êtes belle.
Je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout.
Rien.
C'était La taille de mon âme, interprété par Daniel Darc. On s'est éloigné de sa tombe avec Cali. On continue notre balade dans le cimetière Montmartre juste après ça.
Frédéric Taddeï et le chanteur Cali sont toujours dans le 18e arrondissement, dans le 3e plus grand cimetière de Paris.
Nous sommes avec Cali dans le cimetière Montmartre. Cali, vous avez 50 ans, vous aujourd'hui, vous avez toujours l'air d'un adolescent. Mais...
Merci beaucoup. Mais non, je sais pas, c'est très bizarre le passage, la cinquantaine. Je réalise que j'ai raté le milieu, on dirait. C'est-à-dire que j'ai été gamin et je suis vieux, quoi. Comme s'il n'y avait pas eu de milieu. C'est bizarre, quoi. Bizarre.
Ce qui est bizarre, je trouve, c'est que j'ai l'impression que vous avez la nostalgie d'avant. Mais pour vous, avant, c'est avant que vous soyez connu. Vous avez été. Tout à coup, vous avez eu un succès énorme. Vous aviez quoi, 34 ans, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et j'ai l'impression que depuis, vous ne cessez de vous repencher sur ce que c'était avant, notamment sur votre enfance, sur votre adolescence. Comme si, au fond, le succès avait corrompu quelque chose chez vous. Ou si vous en aviez peur, vous cherchez votre pureté d'avant.
Ouais, il y a un peu de ça. J'ai l'impression d'être un petit peu empoisonné, quoi, quelque part. Il y a un petit poison avec tout ça, ouais, quelque chose de moins pur, de quelque chose. Et me replonger dans cette enfance, heureuse, moins heureuse, il y a des choses belles, moins belles. Et l'adolescence surtout, c'était dingo, quoi, le moment avec les...
Ce que vous racontez dans votre nouveau livre, la cavale, ça veut dire s'échapper au cherche-midi.
Ah mais oui.
Là, vous avez 15 ans.
J'ai 15 ans, l'insouciance totale, avec des amis, un groupe punk. On poussait des cris, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas encore fait l'amour, on ne parle que de ça. Et ce moment, c'est, quand j'y pense, c'est vraiment bouclier contre la brutalité. Vraiment, ouais. Ça me fait un bien fou.
Dans ce roman, parce que c'est écrit comme un roman, vous écrivez bien d'ailleurs, hein, je vous l'avais dit déjà pour le précédent, pour Seuls les enfants savent aimer, vous racontiez la mort de votre mère, vous aviez 6 ans, là c'est 8 ans plus tard, vous en avez 15. D'ailleurs, on la déterre et on la réenterre, votre mère. Et je me suis dit, ça a dû être particulièrement douloureux pour vous de raconter cette scène-là.
Ouais, je pense que non, c'est pas de la douleur. En fait, c'est les gens qui sont dans ce livre-là, et ma maman en fait partie, dans les deux livres d'ailleurs, le fait d'écrire, je suis avec eux. Ils revivent, vraiment. On est ensemble. Et c'est plutôt, ça fait plutôt du bien. On me dit pourquoi j'écris beaucoup, beaucoup de chansons sur l'enfance et l'adolescence. C'est pour ça, quoi. C'est pour faire revivre tout ça, que ça brûle encore, ouais, vraiment.
Mais vous êtes vraiment nostalgique, on le sent. Ouais. Il y a une phrase de vous, je trouve très bien, parce que vous décrivez très bien dans ce livre. Vous dites « Mon cœur devait être plus gros que la normale ». Et vous parlez d'une obésité à sentiments. C'est exactement comme ça que je vous vois, une obésité à sentiments.
Ouais, alors c'est pas ça. Ouais, alors ce passage.
Pleurez beaucoup dans vos chansons, enfin le mot, pas les larmes, et dans vos livres pareil.
Mais je pleure beaucoup.
Vous pleurez beaucoup.
Et ouais, je pleure beaucoup et je me rends compte que s'il y a une période trop longue où je n'ai pas pleuré, ça va pas, quoi. Je crois qu'il faut. C'est tellement bon et se retrouver cette époque là où quand on dit, alors je veux pas dire, mais je pleurais pour rien. Mais on avait cette beauté, c'est-à-dire que les disques, la musique, juste la musique. On ne l'avait pas en un clin d'œil comme ça, Internet.
Oui,
voilà.
On l'attendait.
On l'attendait, on l'espérait, on l'a fantasmé. Moi, je me souviens avoir été mandaté, alors c'est en 87, par mon village pour aller chercher l'album de U2, Joshua Tree, le 9 mars 87, à Vernay-les-Bains. Je fais du stop à 6h du matin. Je suis le premier à Perpignan, à 1h de chez moi, devant le Lolita, les disques. Je mets la galette sous mon pull et je remonte en stop et le village m'attend sur la place. On pose la galette sur ma stéréo, sur mon phono et on écoute ça, Wild Streets Have No Name, l'intro, et on ouvre des yeux. C'était merveilleux, quoi.
Et vous les réécoutez encore aujourd'hui, Joshua Tree, ça vous fait la même chose ?
Bah, ça me fait la même chose. En tout cas, ce qui me bouleverse, c'est de voir cette bande de jeunes comme nous, quoi,
ados,
des Irlandais, les Bono, les Larry, les The Edge et les Adam Clayton. Ils se retrouvent, ils ne savent pas jouer. Et puis aujourd'hui, toutes ces années après, ils font encore des tours du monde et toujours ensemble. Et j'ai eu la chance de les croiser, j'ai la chance de les croiser en fait. Et quand ils se retrouvent pour des fêtes ou des choses comme ça, c'est pas fin, c'est-à-dire qu'ils s'aiment vraiment, ce sont des vrais amis.
Est-ce que vous savez ce que sont devenus vos vrais amis de l'époque que vous décrivez, que vous faites revivre là à 15 ans dans ce livre, ceux avec qui vous avez formé ce premier groupe, un groupe punk
Pénétration anale,
que vous aviez appelé Pénétration anale, est-ce que vous saviez qu'est-ce que ça voulait dire Pénétration anale?
Ben non, mais c'était merveilleux juste ça, c'est-à-dire qu'Alec que je vois toujours, qui est mon grand poteau, quoi, qui est le héros du livre, des deux livres d'ailleurs. On se connaît depuis qu'on a 6 ans et c'est lui qui dirige un peu tout ça, quoi. Et il a trouvé ce nom et je trouvais ça tellement...
Ça sonnait bien,
ça sonnait pourri comme notre musique, quoi. On poussait des cris, on savait pas s'accorder et c'est ce qu'il fallait.
Vous étiez bassiste à l'époque ?
Ouais, j'étais bassiste, ouais.
La basse n'avait qu'une seule corde ?
Une seule corde. J'ai souvenir d'un festival avec les Shérifs où le gars prend pitié, quoi. Il me dit, tu veux que je te donne des cordes ? Je dis, mais ça sert à quoi les 3 autres cordes ? Voilà, c'était... Non, c'était bien. Et donc, je les revois, évidemment, je suis avec eux, Alec, Fernand, et ce sont des frères pour toute la vie. On s'est beaucoup aidés. Enfin, c'est comme des béquilles, quoi.
Ils sont restés dans la musique ?
Non, ils ne sont pas restés dans la musique, mais j'ai ce petit fantasme. J'aimerais bien faire une maroquinerie ou quelque chose comme ça.
Avec
le groupe, ouais. Une date comme ça.
La maroquinerie, il faut le dire, pour les auditeurs qui n'habitent pas Paris, c'est une petite salle de concert très prisée de la nouvelle génération aujourd'hui.
Dans le 20e.
Ça vous changerait des zéniths.
Ouais, en tout cas, ouais, mais ça serait. Mais j'en ai parlé un petit peu à Alec, il me dit, mais t'es fou, on pourrait pas aujourd'hui. Moi, je suis quand même prof de. Parce que lui, il guette, hein, parce qu'il est, il est prof d'hôtellerie. Il me dit, fais gaffe à toutes les conneries que tu marques, parce que.
Alors, il faut dire que Pénétration anale, vous n'avez fait qu'un concert, ouais. Hein, que vous racontez, c'est la fin du livre. C'est un seul concert, mais vous l'aviez raconté déjà, qui vous a valu d'être envoyé du lycée.
Ouais,
un concert, il y a eu une seule chanson,
en fait. Chanson,
vous n'avez même pas pu terminer.
C'est merveilleux, quoi. On a éclaté en vol, merveilleux. C'était.
Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est là que vous avez souvent dit que la scène, c'était chez vous. Et là, on voit bien que c'est un concert mémorable pour vous. Vous sentez Dieu, vous sentez Jésus-Christ. Vous avez ensuite toujours voulu revivre ça.
J'ai toujours voulu revivre ça. J'ai toujours voulu puiser dans les yeux de Joe Strummer l'éternité. J'ai ce
souvenir. Strummer, le chanteur des Clash. Vous aviez le poster dans votre chambre.
Exactement. Et j'ai refait une tournée assez récemment solo où j'ai reconstitué ma chambre d'ado.
D'adolescent, oui. Je m'étais dit vraiment, il n'arrive pas à en sortir.
Bah vraiment, ouais. Ouais. Et j'ai mis ce poster, quoi. Joe me regardait tous les soirs. Ouais. C'était en 81, je crois, la fête de la musique, à 3h du matin, à la télé. Ils ont diffusé le film Rude Boy des Clash. Et j'étais tout seul chez moi. Et là, j'ai vu ce que je devais faire, quoi. C'était le berger qui me disait, viens, suis-moi, on y va, on part, quoi. Ouais.
Alors moi, je me souviens, en 2008, il y a un peu plus de 10 ans, sur Europe 1, je vous avais demandé comment vous voyez 10 ans plus tard. Est-ce que vous voyez toujours chanteur 10 ans plus tard? Et vous m'aviez répondu non, absolument pas.
J'avais dit non?
Non.
Waouh. Bah, peut-être que j'avais déjà... M'enfuir, partir.
Je pense que c'est aussi que tout vous était arrivé tellement vite, vous pensiez que ça pouvait s'arrêter très vite aussi.
Ouais. Et puis non, mais on s'en rend compte, hein, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, tout passe et tout va à fond. Mais il y a cette idée aussi de vouloir, j'espère, vieillir encore un petit peu pour faire du bateau, le tour du monde en bateau. Et moi, j'ai ce fantasme-là, c'est partir. Le vent des globes, dire au revoir à la famille.
D'où le titre, cavale, ça veut dire s'échapper.
Exactement. Et partir et ne pas savoir si on va revenir, c'est terrible, c'est fou. Europe
1. On se retrouve dans un instant avec Cali, on continue notre balade.
Comme chaque dimanche, jusqu'à midi et demi, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï dans les rues de Paris. Et son invité aujourd'hui est le chanteur Cali.
Nous sommes en taxi avec Cali, on se dirige vers le Marais. J'ai regardé avant de vous retrouver sur votre site et j'ai vu pour la première fois pas de date de concert prévue. Je me suis dit, ça lui ressemble pas. Non, vous êtes toujours entre deux concerts. Qu'est-ce qui se passe ?
Ouais, ça fait depuis toutes ces années, depuis le début, depuis 2003, Cali, l'arrivée enfin, de mon histoire, là, où je joue tous les ans entre 100 et 150 concerts. Et là, cette année, j'ai joué énormément. Et puis, j'ai fait un break à partir de décembre parce que j'ai un quatrième bébé qui est arrivé.
Ah oui.
Et là, j'ai posé. Et ça fait deux mois que je n'ai pas joué. Mais je vais jouer à La Réunion, là, ces jours-ci. Là. Je vais jouer à La Réunion et pour le spectacle de Léo Ferré. On va le donner à La Réunion. Mais c'est vrai que ça fait, c'est la première fois où je m'arrête de jouer. Ouais.
Alors, je me suis dit peut-être qu'il a pris le goût à l'écriture maintenant. Il va nous raconter après son enfance, son adolescence, ses débuts.
Bah, j'ai commencé autre chose. Je m'amuse, voilà. C'est un plaisir fou en fait d'écrire, fou. Parce qu'au début c'était évidemment qui je suis pour écrire quelque chose. Et puis je me dis,
vous écrivez vos chansons déjà.
Oui, c'est sûr. Mais après, je suis tellement à genoux devant que ça soit les Hugo ou que ça soit les Brötigan ou Fante, Bukowski et Salinger. Enfin, je suis à genoux devant tellement de gens merveilleux. C'est compliqué de prendre un stylo et de dire voilà, je fais quelque chose. Et puis je me suis dit, je suis le meilleur pour écrire ce qui m'est arrivé vraiment. Voilà.
En même temps, vous avez dû avoir le même problème en devenant chanteur. Vous êtes à genoux devant tellement d'autres chanteurs que de Léo Ferré à Bono, ouais, en passant par Joe Strummer, qu'il avait fallu vaincre votre modestie naturelle, non ?
Ouais, mais j'avais l'impression qu'eux m'appelaient, quoi. C'était eux me tiraient par les cheveux ou par les bras en disant hey, c'est là le chemin, c'est ça qu'il faut faire.
C'est ce que vous racontez d'ailleurs dans Cabal, ça veut dire s'échapper. C'est une espèce de face-à-face avec le poster de Joe Strummer.
Exactement, ouais. Le berger, c'est lui qui regarde, il voit derrière la montagne. C'est mon ami, voilà, et je me confie mes peines de cœur, tout ce que je ressens. C'est à lui que je raconte tout ça.
Vous racontez que, comme job d'été, à l'époque, à Vernet-les-Bains, vous ramassiez les poubelles.
Moi, j'ai ce souvenir fou de cette odeur de déchetterie en moi, quoi. Ça transpirait, c'était au fond de moi. Je prenais douche sur douche. Mes rendez-vous amoureux, c'était je baissais la tête, quoi. Ouais.
Aujourd'hui, comment vous regardez les gilets jaunes ?
Avec beaucoup de tendresse. Ouais, vraiment beaucoup de tendresse. C'est difficile de dire, c'est pas pour contre, c'est une évidence, quoi, totalement. Je suis un peu abasourdi quand on se réfère toujours à 68. On se dit que...
C'est le cinquantenaire.
Ouais, évidemment, mais on se dit, depuis 68, alors par rapport à 68... Est-ce qu'on se rend vraiment compte que ce qui se passe actuellement, c'est peut-être un 68 multiplié par 1000, ce qui se passe aujourd'hui ?
En tout cas, historiquement, il est vraisemblable que ce sera aussi important.
Ouais, non, c'est sûr. Après, évidemment, il y a des cas isolés. On essaie d'isoler des cas, des cas pourris, quoi, des choses...
Antisémitisme
et tout ça. Mais quand je vois, moi, ces gens autour des ronds-points... allumer des feux la nuit et c'est se tenir les coudes et se dire voilà, c'est la guérilla maintenant, il n'y a plus que ça, il n'y a plus rien à perdre, on est abattu, on est piétiné, il reste ça à le dire, quoi.
Tellement chanté, vous, en plus, c'est vrai, vous avez fait beaucoup de chansons sur l'idée de la révolution.
Ouais, parce que disons que j'aime beaucoup l'idée de j'aime me trouver au cœur d'une manif, d'une manifestation. Il y a un engouement, il y a quelque chose qui recharge les batteries. Et même si parfois on se dit que tiens, telle journée va servir à pas grand-chose, ça sert à... Chacun rentre chez lui avec le cœur chargé vraiment comme un fusil, quoi. Voilà, j'ai fait une chanson qui s'appelle « Le cœur chargé comme un fusil », mais on rentre chez soi le chargé, quoi, vraiment.
Et une autre qui s'appelait « Mille cœurs ».«
Mille cœurs debout ».
Ouais,
j'étais très fier. Ouais, la première fois où je l'ai entendu... cracher des baffles. Je me souviens, il y a ce camion qui passait au milieu des manifestants et qui crachait motivé. Et puis juste après, mille cœurs debout, j'étais tellement fier.
C'était dans quelle manifestation, celle-ci ?
Alors, ça devait être pour les sans-papiers, ouais.
Et là, il y a eu des gilets jaunes, Perpignan ?
Oui, il y a des gilets jaunes, on n'est pas loin de la frontière. Le Pertus, les blocages, et puis les samedis, ouais, ils sont là, ouais.
Et comment ils vous voient, eux, quand ils vous reconnaissent ?
Je sais pas trop. Si j'ai des messages là, je soutiens l'usine Ford, les Ford Blanquefort à Bordeaux et puis ça s'est su et puis j'ai eu des messages de gilets jaunes, viens jouer avec nous, viens à tel rond-point, on sera là, on va t'accueillir. Ouais.
Ils vous reprochent pas d'avoir été si proche du Parti socialiste ?
On peut me reprocher ce qu'on veut. Moi, je suis proche de mon cœur, quoi. Quand mon cœur me dit d'aller là, j'y vais à tel moment. Et même si j'ai parfois fait des conneries, je trébuche et je me relève et je me dis, voilà, je l'ai fait.
Oh, c'était pas forcément une connerie. Vous l'analysez comme une connerie aujourd'hui?
Non. Quand je dis une connerie, j'en ai, c'était un moment assez fort, assez fou. Les deux, l'élection de avec Ségolène en face de Ségolène Royal, en face de Nicolas Sarkozy, et puis François Hollande que j'ai soutenu aussi. J'ai une vraie tendresse pour François Hollande en fait. Puis c'est quelqu'un qui quand il me croise vient me voir, m'embrasse et me demande comment je vais. Il suit ma petite histoire. Je sais pas, c'est comme si je l'avais soutenu et il me soutient aussi, quoi. Ouais.
Vous avez besoin d'être soutenu, vous ?
Oh là là, à fond. Moi, j'ai besoin d'amour tout le temps.
Tout le temps. Ouais. Sinon, au bord des larmes. Sinon...
Ah non, c'est les larmes. Je suis désespéré. Quand le téléphone sonne comme ça, je m'attends à une nouvelle dramatique ou fantastique et je m'agrippe à. Je me dis, il va y avoir une nouvelle fantastique, on va te dire qu'on t'aime, quoi.
Ouais.
On se retrouve dans un instant avec Kelly.
La balade de Frédéric Tadé et Kali continue dans une ONG qui tient très à cœur aux chanteurs dans le 3e arrondissement de Paris.
Alors, où est-ce qu'on est ici? Nous sommes 22 rue Chapon, dans le Marais. On est accueillis par des jeunes filles. C'est quoi ici?
Oui, on est chez One, ouais. La nouvelle adresse de l'ONG One à Paris.
Qui a été cofondée par Bono, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ambassadrice.
Oui, c'est ça, voilà, ambassadrice.
C'est comment ton prénom?
Léna.
Léna.
Eh bien, on vous suit, Léna. Donc, c'est un très bel hôtel particulier. Et il n'y a que des filles dans la cour, partout. C'est spécialisé comme ONG. Il n'y a que des femmes.
Non, pourtant, non. On essaie de diversifier. Mais...
Dans l'entrée, il y a un poster de Serge Gainsbourg avec des revolvers. Ça commence bien.
Il est beau, ce poster.
C'est un vieil hôtel particulier, hein. L'ONG One, ça lutte contre la grande pauvreté, c'est ça?
Oui, contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables aussi.
En Afrique, notamment
Surtout en Afrique, oui.
Et donc, vous êtes membre, Kali?
Je suis membre de One, oui, et très fier de l'être. Bonjour.
Bonjour. Donc, on est dans une bibliothèque à l'ancienne, avec des poutres, des murs lambrissés. C'est les éditions Jean de Bonneau, ici?
Oui, c'est ça, oui.
C'est eux qui vous abritent?
Oui. Depuis pas très longtemps, je crois, depuis décembre, One est ici.
Et alors vous, qu'est-ce que vous avez fait pour eux?
Moi, je suis un petit soldat de One et très fier de l'être.
Vous êtes des millions, non? Il y a 9 millions, non?
9 millions, c'est ça.
9 millions d'adhérents, oui.
Et vous avez fait quoi, là?
Disons que c'est sur les campagnes de One, mes amis qui travaillent ici pour la France, pour la filière France, m'appellent régulièrement pour essayer de propager les campagnes et d'en parler et puis de trouver des moyens de diffusion. Et moi, je travaille avec eux là-dessus. Et puis, j'ai un souvenir qui était merveilleux. C'était au Sénégal. On était allé rendre compte du travail de One. Et on était allé là-bas pour voir un petit peu... où aller l'argent et rendre compte de tout ça, faire des reportages là-dessus. C'était merveilleux, merveilleux de faire
il
tout ça.
Il paraît qu'un jour, Bono, votre idole, vous a remercié. C'était pourquoi exactement?
Je crois qu'il m'a remercié pour faire partie de l'histoire, quoi, le fait de.
Il vous a remercié, vous n'étiez même pas là. En fait.
Si, j'étais au concert, ouais. Donc j'ai pu un petit peu frimer, c'était bien. Ouais. Non, mais c'est bien parce que c'est des filières, enfin, c'est des groupes partout en France, dans le monde, qui travaillent quotidiennement. Et ce qui me touche énormément, c'est que en une poignée d'années, le seuil de pauvreté, l'extrême pauvreté a été éradiqué de moitié. Et One n'y est pas.
C'est grâce à One. C'est grâce au capitalisme.
C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. One, c'est pas pour rien. Ouais.
Les tenants du libéralisme disent que c'est plutôt grâce à eux.
En tout cas, le travail de One est gigantesque à ce niveau-là. Et puis. Ils embauchent des ambassadeurs à droite à gauche, des jeunes qui vont prêcher la bonne parole et qui vont parler à nos dirigeants politiques et qui vont à Bruxelles, qui vont à droite à gauche. Et ce travail de longue haleine fait qu'en 2030, l'extrême pauvreté pourrait être totalement éradiquée. Donc c'est pour ça que c'est très concret.
Victor Hugo qui disait ça, on peut détruire la misère. Il avait employé le mot détruire. Pas diminuer, il avait dit détruire.
Ça va être une phrase pour One.
Oui,
ça.
C'est un petit peu ce qu'on essaie de défendre, l'idée que c'est la mobilisation des citoyens, des jeunes bénévoles comme nous et des jeunes engagés et déterminés qui peut aider à détruire la pauvreté, justement.
Mais vous n'êtes pas en concurrence avec tous les jeunes qui ont le même âge que vous, d'ailleurs, et qui, eux, défilent pour le climat ?
Ah, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence. Bah, justement, c'est plutôt une espèce de convergence des combats. Au contraire, c'est même joli, finalement, de voir tous ces jeunes qui se mobilisent. C'est fort, même, de voir plein de jeunes se mobiliser pour le futur, qui n'est pas seulement le leur aussi, qui est celui de toute leur société. Donc, je ne parlerai pas de concurrence, non, je parlerai de partenariat, peut-être.
Ouais, non, parce qu'on pourrait même parler d'incompatibilité. Ceux qui veulent détruire la misère veulent créer des emplois. En créant des emplois, on pollue.
Je crois que ça ne tourne pas seulement autour de la question de l'emploi, c'est surtout une question de droit avant tout, de droits humains, de droits fondamentaux, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Du coup, il n'y a pas vraiment de concurrence avec l'idée de développement durable qui comprend un volet social et économique. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait concurrence.
Bon, vous êtes très bonne, je voulais vérifier.
Et puis c'est toujours très productif et important quand on voit des parlementaires ou des députés qui accueillent des jeunes ambassadeurs. C'est l'avenir, le futur. Nous, si on va les voir et si on leur dit, ben voilà, on a besoin de votre signature, c'est important que vous votiez telle loi.
C'est du lobbying,
ça a moins de portée que des jeunes de 18, 20 ans ou 22 ans qui arrivent et ben voilà, c'est eux l'avenir, c'est eux le futur et c'est eux qui peuvent faire changer les choses.
Ça a changé, ça, parce qu'avant, c'était plutôt les chanteurs qu'on recevait avec un tapis rouge quand on était politique. Maintenant, de savoir que c'est plutôt les jeunes, ça me fait assez plaisir.
Bah oui, justement, je crois que ça a peut-être plus de force parce qu'on est jeune et qu'on est totalement désintéressé aussi par la gloire et qu'on fait ça pour la cause, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer cette carrière de militante associative?
Je sais pas, je pense que ça fait très longtemps. Enfin, j'ai fait du droit, beaucoup de droit, et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai écart entre les droits qui sont affirmés, qui sont proclamés, et ceux qui sont effectivement détenus par les populations. Et
qui sont exercés. Parfois, on les détient, on ne le sait même pas.
Oui, voilà, exactement. Et c'était justement mon but, de réduire cet écart entre les beaux discours et les actes. Et je pense que WAN permet vraiment de donner une voix aux citoyens pour réduire l'écart entre la parole et les actes.
Rassurez-moi, il y a quand même quelques garçons, non ? Je vois que
des filles. Alors, dans les jeunes ambassadeurs, il y a des garçons, bien sûr. Ce serait triste de dire que seules les filles peuvent se mobiliser. Mais...
Non, je trouve ça assez joyeux. Mais ça donnerait envie à beaucoup de garçons d'adhérer.
Peut-être. Mais non, il y a quand même des garçons, vous inquiétez.
Mais il y a une multitude d'actions. Alors, en local, quand je dis local, en France, par exemple, là, le WAN est le partenaire privilégié d'un festival qui s'appelle Les Déferlantes, dans le sud, chez moi, à Argelès-sur-Mer. Et quand je vois le travail qu'ils effectuent, c'est merveilleux, parce que des gens qui viennent voir des concerts, qui viennent s'éclater, peuvent discuter avec des jeunes qui leur expliquent pourquoi, comment vous signez ici, one.org, vous êtes avec nous, c'est une voix de plus. Et grâce à ça, peut-être que notre gouvernement va pouvoir nous prendre au sérieux un peu plus, encore une fois. Et les gens repartent du concert avec évidemment l'énergie du concert, mais avec cette idée, on a fait avancer peut-être les choses nous aussi à notre niveau. Quoi.
Évidemment, on aurait pu écouter One, la chanson de U2, mais j'ai un petit problème personnellement avec U2, je suis trop âgé, ça passe plus. Je préfère qu'on écoute la chanson de Kali, C'est quand le bonheur.
Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot. Espérant le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain. La petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé.
Je suis presque sûr, l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur. Et puis ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui mieux que ces vieux amants sait qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne, décidément. C'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
C'est quand le bonheur, le premier tube de Kali à l'époque, c'était quoi, 2003 hein, c'est comme ça
2003,
que, vous avez,
ouais.
que vous êtes fait connaître. Ça a été
c'est sorti en 2003, je me souviens. J'étais chez moi et puis à la radio, ils ont dit un nouveau, il arrive de Perpignan. J'étais avec ma chérie en voiture et c'est passé entre Sting et les Cranberries, je me souviens. Et on s'est arrêté, on poussait des cris dans la voiture et on s'est aperçu qu'on était devant un cimetière. Et les gens nous regardaient sautant partout, comme ça, voilà.
Frédéric Taddeï et Kali ont quitté l'ONG One, qui lutte contre la pauvreté et les maladies évitables. On continue donc à les suivre pour la suite de leur balade.
Nous sommes en balade avec Kali aujourd'hui. Kali. Je crois que vous étiez fait interdire de Facebook à une époque, ce qui ne m'étonne pas. On connaît vos déclarations un peu tonitruantes, surtout dans le domaine de la politique.
Ouais, non, mais
ça vous a souvent été reproché. Alors.
On m'a protégé de Facebook, disons. Voilà. Ce sont mes proches qui m'ont enlevé les codes.
C'est vrai, vraiment, ils vous ont vraiment enlevé
les
codes.
Oui, ils m'ont enlevé les codes parce qu'ils avaient très peur.
Je sais que votre maison de disques, à une époque, avait peur de vous entendre dans les débats, quand j'animais Ce soir ou jamais.
Ouais, c'est
la
ça.
La maison de disques ne voulait pas que vous veniez, ils avaient peur de vous.
Et chaque fois, ils disaient, je me souviens, ils briefaient les présentateurs, surtout ne parlez pas de ça, de ça, de ça, de ça.
Parce que sinon, ils vont vous répondre.
Et non, le Facebook, c'était drôle parce qu'ils avaient toujours peur que je me retrouve à 4h du matin avec des amis en soirée, en sortie ou je sais pas où, et que je balance des trucs rigolos, quoi. Faut pas faire rire, en fait. Il faut que ça soit commercial, quoi.
Vous avez l'obsession du partage. C'est votre côté de gauche. Et parfois, il y a des trucs, quand on les partage, ça fait pas le même effet.
Non, mais je me dis toujours... quel que soit le lieu, quel que soit les... j'ai envie de faire rire mes copains. Alors je me dis, tiens, je vais faire rire mes copains. Et alors, évidemment, il y en a trois qui rient toujours, mais le plus grand nombre ne rit pas beaucoup, en fait.
On est rue Beaubourg, on va tâcher de trouver un taxi pour aller vers la rue de la Gaîté.
Ouais.
Et Twitter, non ?
Non, mais je suis très, très, très mauvais. Hein, c'est difficile pour moi, les réseaux, je ne suis pas très bon là-dessus.
Non, mais ce qui est très drôle, c'est que vous êtes plutôt timide dans la vie. Et en fait, vous ne l'êtes plus du tout dès l'instant où vous êtes en public.
Non, je suis timide. Non, mais ça fait quelques temps, je ne sais pas, j'ai des amis qui me disent, mais ça y est, tu n'as plus de filtre, en fait. Tu dis des choses maintenant, comme s'il y avait un déblocage de la cinquantaine, ou je ne sais pas, mais je dis les choses maintenant. Ouais. Ma phrase, c'est « on meurt demain ».
Oui, vous savez, c'est une phrase que vous disiez déjà à 15 ans dans votre livre.
Ouais, mais là, elle est voilà, on avance, quoi. Et l'idée, c'est de, je me dis, bah, je dis tout, quoi. Je dis tout maintenant, on fait tout et on se marre et puis On verra bien après, quoi. C'est pas bien grave.
Mais quand on veut vivre comme si on allait mourir demain, ça a un côté autodestructeur, parfois. C'est pas votre cas, vous ?
Non, parce que ce qui me tient, c'est vraiment la famille, vraiment. Donc, je dois être là et je veux être là. Je veux être un vieux avec une barbe blanche et porter mes petits-enfants sur les genoux. Je voudrais vivre ça. Et en même temps, c'est tellement la futilité de la vie, quoi. On vit, on meurt. Le mot carrière me fait bondir, quoi. Ça me rend fou. Je me dis, mais ça sert à quoi tout ça ? C'est autant profiter, se marrer, quoi. C'est...
En même temps, sur scène, à chaque fois, vous avez toujours l'impression que vous voudriez mourir là.
Ouais, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Une fois, j'ai vu Mathias Malzieu des Dionysos revenir sur scène après un grand slam gigantesque. Il bougeait plus. J'ai cru qu'il s'était fini. Et je me suis dit, waouh, ça doit quand même être fulgurant, étonnant, merveilleux. De le dernier souffle, on ferme les yeux, ce sont les lumières de la scène. Waouh.
Je me souviens quand la chanson « C'est quand le bonheur » qu'on vient d'entendre, au moment où elle était sortie, tous les politiques voulaient l'utiliser. Vous vous souvenez ? Il y avait Laurent Fabius qui vous les avait demandé l'autorisation, il y a refusé. Il y avait Nicolas Sarkozy, il l'avait utilisé.
Ça nous avait permis de râler et de dire non, quoi. C'était pas mal. Ouais.
Et en revanche, au Stade Charletti, pour la candidature de Ségolène Royal, vous l'aviez chanté avec tous ses supporters.
Oui, je me souviens de ce moment-là, c'était merveilleux parce que c'était entre les deux tours et j'étais avec Georges Moustaki, mon ami Georges Moustaki. Et j'ai ce souvenir incroyable, on est à la fin, on se tient tous la main, il y a Noah, il y a tout le monde, Benabar, on est tous là, Renaud. Et Ségolène qui me fait un signe à la fin pour me dire je le passe ou je le passe pas. Elle me demandait si elle devait passer la Marseillaise dans le stade, à moi, Bruno Caliccioli de Vernet-les-Bains. Et j'ai dit non. Et à cause de moi, il n'y a pas eu la Marseillaise.
Pourquoi vous aviez dit non ?
Je ne sais pas, mais ce que j'ai trouvé...
Genre, on ne passe pas la Marseillaise après une chanson de Kali.
Mais j'ai trouvé ça d'un professionnalisme absolu. J'ai trouvé ça magnifique, quoi. Je me suis dit, là, on va gagner.
En fait, comment tout à coup, on se retrouve avec la volonté de puissance ? Vous avez connu ça, ce jour-là ?
Mais c'est étonnant. Ouais. Mais non, mais ce sont des grands moments. Charletti, merveilleux, le stade merveilleux, le soleil, et puis cet entre-deux-tours incroyable. Ouais, c'était bien.
Et puis la défaite, c'est pas désagréable au fond.
Tant pis pour les victoires, tant mieux pour les défaites, hein, comme dirait Miossec. Ouais, les losers magnifiques, c'est mieux.
Il y a ça dans la culture française, j'ai l'impression. On n'est jamais aussi beau que dans la défaite.
Oh, mais oui, le perdant magnifique. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai fait 7 fois les victoires de la musique, j'ai perdu 7 fois. C'est toujours. Mais j'ai une victoire merveilleuse, c'est que je rentre chez moi, je suis à l'aéroport de Orly-Ouest. Avec ma valise toute pourrie comme ça, et j'ai perdu, quoi. Et je reçois un coup de téléphone, c'est Alain Souchon, que je ne connaissais pas. Bonjour, c'est Alain Souchon. Je voulais juste te dire qu'on s'en fout des victoires de la musique. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, et c'est pas grave tout ça. Il m'a donné le sourire. C'était l'impression d'extrême clarté du paysage après la pluie. Merveilleux. Merci, monsieur Souchon.
On va attraper un taxi avec Cali. On se retrouve rue de la Gaîté, juste après les infos.
Europe 1, en balade avec Cali. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Cali et nous arrivons rue de la Gaîté. La rue de la Gaîté avec ses théâtres, ses restaurants, ses sex shops qui ont succédé aux guinguettes de la première moitié du 19e, puis aux balles et au cabaret du Second Empire. Une rue que vous aimez bien ?
Là, je pénètre dans cette rue avec toi, là, avec vous, et puis avec beaucoup d'émotions. Vraiment, j'aime beaucoup cette rue. C'est une rue de vie, le théâtre, évidemment. Et puis, j'ai passé 4 mois de ma vie incroyable, une bulle dans ma vie. Ouais.
Oui, c'est quand au théâtre de la Gaîté Montparnasse, où nous nous rendons, vous nous raconterez ça. Mais cette petite rue, toujours animée, la rue des plaisirs, qui date d'il y a si longtemps, hein, ce que je rappelais, ça a 2 siècles déjà, cette tradition de la rue de la Gaîté.
Et quel est le premier théâtre ? Vous le savez, le premier théâtre ici,
je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que s'il y avait tant d'établissements qui s'étaient logés dans cet endroit, qui n'était pas vraiment une rue à l'époque, c'est parce que c'était après la barrière d'octroi. Donc, on ne payait pas les taxes.
Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, tout le monde s'est regroupé ici.
Tout le monde s'est regroupé ici pour tout ce qui était balle, débit de boissons, etc., etc. Il y a toujours autant de monde aux terrasses, même s'il commence un tout petit peu à pleuvoir. Mais sous les hauts vents, les gens boivent et discutent. C'est Paris, hein.
C'est Paris, mais c'est marrant. Hein. On est passé tout à l'heure devant le Moulin Rouge et c'est peut-être ça pour moi, mon Paris, c'est ça. Quoi.
Vous avez beaucoup joué dans les balles de village. Vous ne le racontez pas dans votre dernier livre parce qu'on n'en est pas encore là, mais j'imagine que vous le raconterez un jour puisque maintenant vous racontez toute votre jeunesse, livre après livre. Mais vous avez joué beaucoup dans les balles de village.
Ouais.
Ça vous donne, je crois, ce contact avec le public.
J'adorais ça, un bal de village, on est le héros du village, c'est-à-dire qu'on va chanter des chansons des autres, mais les gens au fin fond, c'est leur fête, et on est vraiment les héros, et pour eux, c'est nous qui avons écrit les chansons, quoi. Pendant qu'on chante, on nous porte du vin, des bières, et c'est la fête, comme ça. Quand une bagarre éclate devant, on est obligé de se protéger avec les pieds de micro, tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai quelques petits problèmes techniques sur scène, ça me fait rigoler.
Mais je me suis dit, je suis sûr que vous
auriez
pu vous contenter de ça. Il se trouve que vous avez écrit des chansons qui ont eu énormément de succès, mais vous aviez déjà 34 ans à ce moment-là.
Ouais, mais
je suis sûr
que
vous auriez pu rester un chanteur de bal.
Vraiment. J'ai adoré ça. C'était, ça démarre par les bandes de taule chez moi, c'est-à-dire on va chanter dans les rues avec le chapeau l'après-midi pour que les gens du comité des fêtes puissent payer la soirée, puissent payer l'orchestre. Et puis après, on va jouer le soir.
Et vous chantez quoi à ce moment-là ? Vous chantez ce que les gens vous demandent ?
Ouais, voilà, on chantait ce que les gens nous demandaient. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup l'international. Mais c'était ça. Mais surtout, je me suis dit, mais c'est une vie absolument merveilleuse. On est accueilli chez l'habitant, on va manger chez les habitants. Après, on va faire de la musique avec eux. On finit la nuit avec eux. Et puis, on démonte tout et on va jouer dans le village à côté après. C'est le cirque. Et moi, quand je vois des cirques, je vais chaque fois renifler les caravanes parce que c'est la vie qui me plaît. Et cette histoire de bal de village, c'est fondateur, absolument, absolument fondateur. J'ai un batteur sur mon premier album, je le salue, Toon le batteur sur L'amour parfait. Je lui dis, tu sais, ça marche, c'est parti. T'as fait l'album avec moi, on était à la maison, on l'a fait, mais c'est parti. Tu viens avec moi sur la route. Il me dit, Bruno, je t'aime, mais... j'ai envie de continuer à faire pousser mes tomates chez moi et à rester à faire du bal. Voilà, et avec le sourire, il m'a dit ça, j'ai trouvé ça merveilleux.
Là, on est devant le Théâtre Montparnasse, où il y a Pierre Palmade et Catherine Yegel qui jouent le lien. Il y en a partout, hein, ça vous manque ? Ça vous manque parce que vous avez joué que 4 mois au fond.
Ouais, que 4 mois, c'est quand même intense. C'est 4 mois quasiment tous les jours. Ouais. Ça me manque évidemment, mais je suis de Perpignan et 4 mois quitter la famille, c'est compliqué. Hein. C'est quelque chose. Donc, mais ce qui m'a plu, c'est cette effervescence tous les jours. Le ventre qui est serré tous les jours. On va jouer sur scène. Quand la première fois, quand le rideau s'est ouvert, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là ? Et c'était merveilleux, quoi. Je me souviens, ça a démarré, c'est moi qui insultais la partenaire. Elle m'a giflé, c'était merveilleux.
Il y a toujours des sex shops ici, on se demande pourquoi, mais vous les fréquentiez ?
Non, mais je suis ravi qu'il y ait des sex shops parce que c'est un éclairage qui me plaît.
Il y a des massages, gaieté, beauty. Vous n'avez jamais eu la curiosité de pousser la porte ?
Non, mais je vous le dirai. Hein. Vous savez, je dis tout.
Mais
je ne suis pas un menteur. Hein.
Et je ne suis pas là pour sonder les cœurs et les reins. Là, il y a un café.
C'est le café, c'est chez Marido. Alors, c'est le bistrot, c'est l'entracte. Voilà, c'est collé à la gaieté, je vous le souhaite. Et il y a une dame qui s'appelle Marido, là-bas, qui m'a accueilli tous les soirs. Et j'allais tous les soirs finir dans ce bar avec elle et raconter la vie. Et je ne lui ai pas dit, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Marido. Un jour, je la sortirai.
Mais il faut dire que vous avez écrit à peu près 60 chansons à chaque album.
Ouais, j'écris des chansons, ouais. Ouais. C'est pas toujours bien.
Hein. Oui, c'est pour ça que vous en gardez 10-12.
Ouais, c'est ça.
Nous voilà devant le fameux théâtre. Ben, on se retrouve là dans un instant. Le théâtre de la Gaîté Montparnasse avec Kali.
On retrouve Frédéric Taddeï et Kali dans le 14e arrondissement de Paris, dans un lieu où le chanteur a fait ses débuts.
Nous voilà devant le théâtre de la Gaîté Montparnasse, rue de la Gaîté, donc un théâtre ouvert en 1868. C'était un café-concert à l'époque. On y a entendu Yvette Guilbert, Dranem, Mayol. Plus tard, ce sera Maurice Chevalier. C'est devenu un théâtre ensuite. Moi, c'est là que j'ai vu le Père Noël est une ordure, à l'époque. Oui, c'est là qu'ils l'ont créé. Et c'est là que vous avez joué pour la première fois, vous ?
La première fois au théâtre, ouais, une pièce de Patti Smith et Sam Shepard.
Cowboy Mouse.
Ouais, exactement. avec Marie Barrault, une actrice magnifique.
Alors, on va rentrer, ça vous fait quelque chose de revenir ici?
C'était
en 1914.
En 1914.
En 2014.
Et j'ai pas remis les pieds ici, ni dans la rue, ni rien.
Ah oui, c'est drôle.
Et ça me fait vraiment quelque chose tous les jours, là, tous les soirs.
Les murs rouges, la façade rouge d'abord, les murs rouges ensuite, la caisse. Il était déjà là, la caisse?
C'était
le même garçon.
Waouh. C'était... Oh là là. On peut rentrer? Ouais. Ça va bien?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, les fauteuils rouges.
Regarde les fauteuils. Oh là là. C'était dingue.
Vous avez aimé faire l'acteur?
J'ai adoré. J'ai adoré parce que Nicolas Tarin, le metteur en scène, m'a beaucoup aidé.
On sent l'odeur particulière.
On sent l'odeur particulière, mais la proximité. Alors, voilà, évidemment, le théâtre sans micro, sans rien, mais si quelqu'un ronfle ici, on l'entend, quoi.
Oui, mais ce n'est pas une très grande salle. Hein.
Ce n'est pas une grande salle, mais elle est. Enfin, moi, j'ai trouvé ça magique.
Avec la scène noire, les murs noirs, les rideaux noirs derrière.
Et sur mon bouquin, donc, le cavale, ça veut dire s'échapper, c'est la dernière phrase de la pièce. Patti Smith termine par cavale, ça veut dire s'échapper.
Et alors il faut dire que Patti Smith, c'est Patricia, c'est une fille dont vous êtes amoureux et vous la comparez toujours à Patti Smith. Voilà. Vous ne saviez pas que vous rencontreriez un jour la vraie Patti Smith?
Non, je ne savais pas. Mais j'aimais l'idée de me dire que la première fille à qui j'ai fait l'amour, c'était Patti Smith.
Vous lui avez dit à Patti Smith?
Non, je ne lui ai pas dit non.
Mais quand vous aviez une sacrée habitude de la scène déjà, quand vous vous êtes retrouvé acteur, et pourtant ça n'a plus rien à voir hein, quand on a déclamé un texte qu'on n'a pas écrit.
Non, ça n'a plus rien à voir, mais c'est surtout ce qui est merveilleux, c'est quand on dit spectacle vivant, en permanence vivant. C'est-à-dire que juste avant de rentrer sur scène, on règle des choses, et on a beau jouer, je sais pas, sans représentation, tous les soirs on règle, on parle de ce qui s'est passé, on débrief. Tous les soirs on est dans les loges, et j'ai eu la chance de croiser... des gens qui jouaient juste après nous, Fanny Ardant, Nicolas Duvauchel. Et moi, je buvais tout ça, je regardais tout ça. C'était fort, ouais, vraiment.
Là, je vois votre ami Diastem, qui vous avait donné rendez-vous. Ancien critique de cinéma, écrivain, réalisateur, juillet-août, un Français. C'est qui pour vous, Diastem?
C'est un grand ami d'abord, mais pour moi, c'est... Il a écrit le plus beau livre d'amour. Quand on parle du plus beau livre d'amour, pour moi, c'est un livre qui s'appelle 107 ans. Et je l'offre aux gens que j'aime parce que c'est vraiment pour moi le plus grand livre d'amour. Une histoire incroyable avec un jeune écorché vif, Simon, qui continue aujourd'hui sur une pièce qui arrive et un livre qui arrive. Hein, c'est La paix dans le monde.
Bonjour Diastem.
Bonjour, bonjour.
Le plus beau livre d'amour de tous les temps.
Oui, pas un garçon excessif du tout.
Et vous écrivez pour Cali ou...
Non, j'écris pas pour Cali, mais c'est vrai que là, je retourne au théâtre après longtemps et c'est une pièce qui est la fin d'une trilogie dont 107 ans est le centre, et donc avec le même héros. Et spontanément, voilà, j'ai demandé à Bruno de faire la musique, je lui ai fait lire le texte, et puis évidemment, il aurait pu dire non d'ailleurs, mais il a dit oui, voilà, donc c'est très touchant.
Pourquoi on met tout le temps de la musique au théâtre maintenant?
Oui, alors là, pour le coup, moi, j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre, c'est vraiment la première fois où il y a vraiment de la musique, et je fais même un truc que je m'étais interdit, c'était, je fais même de la vidéo.
Oh là là là.
Donc, en plus, a priori, j'ai horreur de ça, mais je ne sais pas, pour celle-là...
C'était la pression de l'époque.
Ben non, en plus, il y a plein de metteurs en scène de théâtre qui mettent de la vidéo parce qu'ils ont des frustrations de ne pas faire de film, moi, c'est pas mon cas.
J'ai toujours pensé que c'était une influence du cinéma sur le théâtre, ça pèse. Maintenant, on commence une pièce de théâtre, il y a de la musique. On veut vous faire pleurer, il y a de la musique, c'est terrible, non?
Bah non, mais j'essaie de voilà, je pense avoir aucune personnalité, j'essaie de faire comme tout le monde, vraiment.
Je vous ai bien dégoûté, vous avez pu faire cette musique.
Non,
non, les fêtes.
Et j'ai lu La paix dans le monde, et c'est bouleversant, c'est merveilleux, j'ai hâte. En plus avec l'acteur fétiche quoi de Diastem quelque part, Frédéric Andreau, qui est mon acteur fétiche. Voilà, c'est pour moi, un des plus grands acteurs de théâtre.
On va la créer à Avignon. Je retourne à Avignon. Là. Je n'ai pas fait ça depuis très longtemps, mais à Art et Phil pendant le festival.
En off?
Oui.
Avignon, non? Ça vous dirait pas ?
J'irai les voir. J'irai les voir. Mais c'est, ouais, bien évidemment que j'irai la voir, la pièce. J'ai jamais vécu le Festival d'Avignon. Jamais.
Ah, ça vous plairait. Des gens dans la rue qui distribuent des tracts. Ça vous rappelait les bals populaires, tout ça. Non, mais c'est vrai, il y a un côté Avignon comme ça. Hein.
Mais moi, c'est drôle d'être là à la Gaîté parce que moi, évidemment, j'ai vu Bruno jouer cette pièce. Et c'est ce que vous disiez. Il avait quelque chose d'un naturel. C'est drôle parce que avoir fait autant de scènes en tant que chanteur et faire en tant que comédien, bizarrement, la seule différence, je me souviens qu'on avait fait, on s'était parlé après, c'était la position du corps qui n'est pas exactement la même. Ça, c'était drôle. Parce que tu avais une position de chanteur et tu cherchais ta position d'acteur. Il y avait quelque chose à voir avec le quatrième mur, avec regarder le public ou pas. Il avait des monologues. Je me souviens d'un monologue où tu étais vraiment totalement à l'avant-scène. Et c'était, voilà, il y avait une espèce de puissance comme ça qui était la puissance du chanteur, en fait.
Mais Mediastem m'aide beaucoup. Chaque fois, j'ai fait mon spectacle solo, c'est lui qui l'a mis en scène.
C'est en lui tant que chanteur.
En tant que chanteur. Mais son regard est tellement important pour moi parce qu'il est, il est évidemment critique, mais c'est pour me faire avancer, pour vraiment m'aider, beaucoup d'amour. Et c'est inestimable pour moi. C'est, voilà.
Ouais. Tiens, on va vous écouter interpréter cet extra, la chanson de Léo Ferré. C'est sur votre disque Cali chante Léo Ferré, un disque que vous posez avec une guenon d'ailleurs. Et cet extra, c'est quand même une des plus belles chansons qu'on ait jamais écrites. Non
oh, bah oui, le slow pur, merveilleux, qui fait pleurer. L'été, merveilleux.
Une robe de cuir, comme en fuseau, qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit. Comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jase dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui monte au ciel comme une cigarette qui prie. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Ces bas qui tiennent au perché, comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. Cet extra est sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on attend plus. Cet extra, cet extra, cet extra. Une robe de cuir, comme un oubli, qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin cri, une fille qui tangue et qui se tait. Cet extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient. C'est extra. C'est extra. C'est extra.
C'était Kali interprétant cet extra, la chanson de Léo Ferré. On se retrouve dans un instant au théâtre de la Gaîté Montparnasse avec Kali et Diestel.
Frédéric Taddeï et Kali ont été rejoints par Diestel pour la fin de leur balade, pour parler théâtre, cinéma ou encore musique.
Nous sommes au théâtre de la Gaîté Montparnasse où Kali a fait ses débuts d'acteur en 2014 dans une pièce de Sam Shepard et Patti Smith. On est avec Diestel et Kali. Est-ce que vous avez senti ici les ombres de Mayol ou d'Yvel Gilbert du temps où c'était un café-concert?
Non, moi ce qui m'a vraiment... j'ai senti voilà, ce théâtre merveilleux évidemment, mais à la fin de la pièce. Je sortais tous les soirs et je me souviens, il y avait une personne d'un certain âge, je ne sais plus son nom, qui venait me parler. Il me disait, ce soir j'ai eu 12 personnes, ce soir j'ai eu 25 personnes. Et on buvait un verre de rouge et il me racontait sa vie de théâtre. Il avait 80 ans et je me souviens, il m'avait raconté qu'il avait démarré à 16 ans. Une vie de théâtre, quoi. De 16 ans à 80 ans, faire du théâtre. Je trouve ça tous les soirs, c'est fou, c'est merveilleux, c'est une drogue.
Et vous, Diestel, d'avoir commencé critique, puis d'être passé de l'autre côté, en écrivant du théâtre d'abord, puis des livres, puis des films?
Bon, disons que j'ai un rapport avec la presse et la critique qui, je pense, est différent. Voilà. C'est-à-dire, je ne prends pas ça très au sérieux. Et puis en plus, il se trouve que comme, en tout cas dans le milieu du cinéma, et je pense aussi dans le milieu du théâtre, ce sont à peu près toujours les mêmes 20 ans après qui sont critiques. Ça veut dire que je connais à peu près tout le monde. C'était des amis, voilà, ça l'est toujours. Donc de temps en temps, je me fâche avec des vieux copains. Mais sinon, non, j'ai un rapport très distancié avec ça. C'est agréable, en fait.
Mais on doit quand même avoir un peu de mal à franchir le pas, non? À se dire, on a tellement jugé les films avant, ou les pièces d'ailleurs, ou les romans. Tout à coup, de se mettre à en écrire un, on doit être particulièrement critique vis-à-vis de soi-même, non?
Oui, on est critique vis-à-vis de soi-même, mais aussi on se rend compte que c'est très difficile la critique. Moi, j'ai quelques hontes rétrospectives atroces parce que il y a des films qu'on voit à 20 ans. En plus, j'ai démarré très très jeune, à 20, 22 ans. J'ai fait par exemple une atroce critique d'un film de Kieslowski quand j'avais 23, 24 ans que j'ai revu 20 ans plus tard et qui m'a absolument bouleversé parce que j'avais pas du tout l'âge. On sait très bien que tout ça est tellement volage, ça dépend tellement de choses.
Alors moi, c'est le contraire. J'ai l'impression que j'ai adoré le cinéma quand j'avais 14, 15 ans et quand je revois les films ensuite que j'ai beaucoup aimé à cette époque-là, je me dis mais comment j'ai pu aimer des trucs pareils.
Ça marche. Ça marche dans les deux sens. Absolument. Ouais. Ça n'a pas une grande importance, en fait.
Non, sans doute pas, mais enfin, c'est... en même temps, le cinéma, c'est souvent fondateur. En tout cas, c'était fondateur autrefois pour notre génération. Ça l'est sans doute moins aujourd'hui.
Sans doute.
La chanson, l'est restée. La musique, c'est resté fondateur, je pense, pour les jeunes générations.
Je réécoute des chansons qui m'ont bouleversé totalement. Il y a une chanson qui s'appelle « The Pan Was In » des Waterboys. Je l'ai écoutée en 84. C'est un pote qui m'avait fait une cassette comme ça. Elle est tombée au milieu d'autres chansons et j'ai beaucoup pleuré. Je me souviens ce jour-là, d'ailleurs.
Encore un jour où il a pleuré.
En l'écoutant. Et je l'écoute aujourd'hui, elle me fait encore pleurer. Ça me bouleverse parce que c'est comme si, voilà, c'est l'épée qui m'a transpercé à ce jour-là me est toujours dans mon ventre, quoi, c'est sûr.
Mais ce qui doit être plus embêtant pour votre génération, Kali, enfin, vous avez 50 ans maintenant, mais c'est de se dire qu'on a plus de mal, quand on est un chanteur français, à moins de faire du rap, de toucher les jeunes générations. La nouvelle chanson française pour les jeunes, c'est le rap.
Oui, après, je pense qu'il ne faut surtout pas essayer de suivre quelque chose et d'essayer de... Je pense que l'idée, c'est de vieillir tranquillement et de faire ce qu'on fait au moment où on le fait, comme on a envie de le faire. Parce que c'est le problème. Hein. Moi, il y a des chansons qui touchent des millions de personnes. Je ne comprends pas du tout. Ce sont des ovnis pour moi. Et puis tant mieux, quelque part, quoi. Si on comprenait tout, ça serait difficile.
Là, vous venez d'avoir un bébé. Pensez qu'il écoutera Kali?
Oh ben je vais le forcer, moi je fais ça chez moi, je les mets chez moi et on met que ma musique et puis c'est tout quoi.
Ça m'étonnerait ça.
Non mais c'est très drôle parce que c'est ça quoi. Ma fille l'autre jour qui me dit mais papa on t'entend plus là, qu'est-ce qui se passe là, c'est fini ou quoi, c'est comme ça quoi. Alors j'ai baissé la tête, j'ai fait semblant de pleurer et tout ça. Et je dis non, ma chérie, tout va bien.
Donc, vous n'avez pas renoncé à la chanson?
Non, mais disons que la chanson, il y a quelque chose d'assez troublant. C'est cette idée de, en 3 minutes ou 4 minutes, Diastème écrit des chansons aussi, hein, en 3-4 minutes, de pouvoir décrire le monde ou son monde comme ça. C'est fou. J'adore ça. C'est un voyage, un tout petit voyage merveilleux. Ouais.
C'est quoi votre dernière chanson, Diastème?
Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de cinéma, de théâtre. Je n'ai pas tellement eu de temps. Mais je m'y remettrai plus tard, en vieux crooner un peu, peut-être dans 15 ans.
Ouais, mais quand on lit tes textes, tes livres, il y a de suite une musique. Moi, je pourrais mettre dessus, je pourrais en tirer des chansons de ça, en faire. Je ne sais pas si tu le ferais avec talent, mais en tout cas, je sais que je peux, je l'entends ça. Ce sont des mots de chansons quelque part.
Alors, je vous avais demandé il y a 10 ans, je vous avais demandé comment vous voyez dans 10 ans. Je recommence dans 10 ans. Comment vous voyez, Kali?
Ouais, fini quoi, non, là, on passe à autre chose quoi. Non, dans 10 ans, je voudrais être un petit grand-père quoi, ça serait pas mal, ouais. Un petit grand-père qui râle bien. J'aimerais, ouais, ça serait pas mal ça. Et être fou amoureux quoi, tomber amoureux tous les jours, m'agripper à des gens dans la rue, les embrasser, tout ça, et qu'on prenne pour un fou. C'est-à-dire que, bon, laissez-le, il est vieux, et j'embrasse tout le monde dans la rue, mais je suis pas fou. Hein.
Merci de nous avoir emmenés en balade avec vous aujourd'hui. Merci Diastème
d'avoir
participé. Cavale, ça veut dire s'échapper. C'est le titre de votre nouveau livre qui vient de paraître au Cherche Midi. Je remercie le cimetière de Montmartre, l'ONG One qui nous a si bien reçus et le théâtre de la Gaîté Montparnasse où nous nous trouvons. Je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain à 11h.